Ensuite de Marc encore.
L'évangile de Marc, chapitre 14, et nous lirons les versets 53 à 72. Marc nous dit ceci, « Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où se réunirent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient pas. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne se concordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main de l'homme. » Une corruption d'une phrase que Jésus avait dit, mais vraiment détournée. Et même sur ce point-là, leur témoignage ne se concordait pas. Alors, le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne répondis-tu rien? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et nous apprenons dans un des autres évangiles, qu'il somma Jésus de répondre en le mettant sur un serment, et en l'obligeant au nom de Dieu de répondre à la question. Jésus répondit, « Je le suis », donc le Christ, le Fils du Dieu béni. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble? Tous le condamnaient comme passible de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Donc, qui t'a frappé? Et les gardes le reçurent avec des gifles. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, parce que Jésus est dans une chambre qui se trouve à l'étage, dans le palais du grand sacrificateur, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda en face et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit de là pour aller dans le vestibule, c'est-à-dire dans la partie vers le portail qui mène vers cette cour où il était. La servante le vit et se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Il est de ces gens-là, il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement toi aussi, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen et tu parles comme eux. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais l'homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renierais 3 fois. » Alors, il est allé se mettre à pleurer. Aujourd'hui, je viens devant vous, fortement embarrassé par ma tâche de prédicateur. On se sent vraiment tout petit et vraiment dépassé parfois quand on est devant quelque chose comme ce que je dois vous raconter aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu La Passion du Christ, le film de Mel Gibson. Vous l'avez vu? Certains d'entre vous, non? Ça vous a secoué? Je ne sais pas si vous avez vu d'autres films qui montrent des choses vraiment que si vous les aviez vécues, ces choses vous auraient laissé traumatisé. Le gladiateur, sauver le soldat Ryan. Des choses, on dit que c'est pas possible que des choses comme ça se produisent. Et nous ne sommes pas devant les concepts aujourd'hui. Je vais essayer de vous parler de ce qui s'est passé. Et si nous avions été là, et si nous avions vu ce qui s'est passé, l'émeute carrément qui s'est levée contre Jésus de Nazareth, la manière dont on l'a fouetté presque à mort avant qu'il aille même aux places du calvaire, tout cela, je ne peux pas moi-même le saisir et je me sens un peu dépourvu devant tout cela. Mais nous avons la parole de Dieu et nous allons tout simplement essayer de nous rappeler dans un premier temps les événements et dans un deuxième temps les leçons, trois leçons, et assez simples. Les événements. Nous allons parcourir encore quelques-uns des versets je vais essayer de vous donner quelques détails pour vous aider à être là. À vraiment, parce que nous devons... C'est notre histoire, ça. C'est notre histoire. Ça s'est passé pour nous. Et nous devons y être. Verset 53. Le Sanhédrin. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où se réunirent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Le souverain sacrificateur était un homme qui s'appelait... Quoi? Vous vous rappelez de son nom?
Caïphe.
Caïphe, en fait, on a amené Jésus chez son beau-père d'abord, nous dit un des autres évangiles. Et Annas, qui avait été souverain sacrificateur avant Caïphe, et qui avait un tel pouvoir en Israël qu'il tenait un peu les rênes. Nous avons trouvé des documents archéologiques qui nous racontent que Annas, le beau-père, a été souverain sacrificateur pendant 18 ans, alors que la durée moyenne de ses prédécesseurs, c'était 4 ans. Parce que les Romains les mettaient et les enlevaient. Alors, c'est pour cela que c'est complètement logique et en ligne avec les faits que les évangiles nous racontent qu'on a amené Jésus d'abord chez Annas, le beau-père. En fait, après Annas, vous savez qui a été souverain sacrificateur? 5 fils d'Annas, l'un après l'autre, et ensuite Caïphe, le beau-fils, et ensuite le petit-fils d'Annas. Tellement Annas avait du pouvoir et arrivait à convaincre les autorités romaines à mettre qui il voulait. Annas l'envoie chez Caïphe. Nous sommes au milieu de la nuit. Il fait froid. Pierre se chauffe devant un feu. Nous sommes au palais du grand sacrificateur. Il y a des bâtiments sur les quatre faces et au milieu une cour ouverte où on peut voir le ciel. La chambre, la grande chambre, où sont maintenant réunis tous les membres, ou presque, du Sanhédrin, c'est-à-dire la Cour suprême d'Israël. C'est une chambre à l'étage qu'il donne sur la cour, et c'est pour cela qu'à un moment donné, Jésus regarde Pierre dans la cour quand le coq chante. Le Sanhédrin était fait de 71 personnes. Pourquoi? Parce que c'était fait selon le modèle de Moïse et les 70 anciens qui gouvernaient Israël au temps de l'Exode. Et dans le Sanhédrin, il y avait trois groupes qui constituaient cette cour suprême. Il y avait, comme Marc nous dit au verset 53, les principaux sacrificateurs. Ça, c'est qui, ça? Les principaux sacrificateurs. C'est celui qu'on appelle le grand sacrificateur, qui est Caïphe, et c'est tous les anciens ou les précédents grands sacrificateurs, qui ne le sont plus, comme Annas. C'est aussi le garde du temple, qui est prêtre aussi, et c'est les trois trésoriers du temple. Le deuxième groupe, et ces gens-là étaient surtout sadduciens à l'époque. Le deuxième groupe que Marc mentionne, c'est les anciens. Ça, c'est qui? Les anciens, ce sont des propriétaires assez riches en Israël, donc des représentants de la couche de société plutôt aisée et un peu dominant sur le plan économique. D'accord? Et le troisième groupe dont Marc Paul parle, et c'est bien parce que nous avons dans les documents archéologiques ces mêmes trois groupes décrits comme constituant le Sanhédrin. Et Marc parle exactement comme Flavius Joseph, en disant qu'il y avait ces trois groupes de personnes-là. Donc le troisième groupe, c'est les scribes. Ça c'est qui? Les scribes sont essentiellement des avocats. Et les avocats à l'époque, c'est des gens aussi qui sont théologiens, parce que la loi en Israël, c'est la loi de Moïse. Et ceux-là étaient surtout pharisiens. Le conseil, les 71 hommes, il y avait à peu près tout le monde là. Je me demande si Nicodème était vraiment là. J'ai mes doutes. Parce qu'aucune voix s'élève pour dire non à ce procès. Ou au moins sa voix a été submergée par le mouvement de tous les autres. En tout cas, ils sont assis dans un semi-cercle. Selon les écrits archéologiques de l'époque, ils devaient se mettre comme ça. Nous avons des documents où les rabbins expliquent les processus et le Sanhédrin. Cette Cour suprême avait des règles très précises dans la manière dont il devait conduire des procès. L'accusé était au milieu. Et selon la documentation que nous avons, les témoins devaient témoigner individuellement un après l'autre. Et un témoin ne devait pas être présent pour le témoignage des autres témoins, parce qu'il fallait voir si les témoignages allaient se concorder. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Et nous lisons ici que le verset 55, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient pas, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais leur témoignage ne se concordait pas. Mettez dans votre tête un procès ô combien illégal. Parce que c'est la Cour suprême qui cherche, non pas à savoir la vérité, mais qui cherche à amener une sentence d'exécution contre un homme. C'est un groupe d'hommes remontés. Mettez-vous dans la culture moyenne orientale, où ça s'échauffe vite. N'est-ce pas? Et rappelez-vous que ces hommes sont vraiment remplis de colère contre Jésus de Nazareth. Et pourquoi, dans le chapitre 15, on va nous dire que Pierre, pardon, pas Pierre, mais Pilate, donc voyait que c'était par envie que les Juifs, ces gens amenaient Jésus devant lui. Il y a une envie, il y a une haine pour Jésus de Nazareth, il y a le désir de le faire disparaître. Et donc, le Christ est au milieu, et on a apparemment déjà averti des gens pour qu'ils viennent comme témoins. Parce qu'on est au milieu de la nuit, mais les témoins sont là. Oh, c'est une bonne, fortuite circonstance. Voilà. On les fait venir, l'un après l'autre. Et sans doute, Caïphe et les autres sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à dire la même chose. La frustration grandit. Caïphe ne peut pas se tenir seul. Et donc, il quitte sa place de président de la Cour suprême et il se transforme en procurateur. Et donc, nous lisons qu'il se lève au verset 60, au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et lui dit « Ne réponds-tu rien ?» Et il commence à amener lui des accusations, bien qu'il soit le juge et le juré. Un des faux témoins, deux, peut-être toi, ont évoqué ce problème où Jésus a dit un jour, et je vous cite ce que Jésus a dit, il a dit « Détruisez ce temple, parlant de son corps, et en trois jours je le rebâtirai. » Mais les faux témoins viennent ce jour et ils disent autre chose. Ils disent « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple. » Jésus a dit « Vous, détruisez le temple que je suis. » Et les faux témoins disent que Jésus a dit « Moi, Jésus, je vais détruire le temple de Jérusalem. » Voyez combien ils déforment. Jésus était en train de prédire par cette phrase « Vous allez me détruire. » Et ils sont en train de le faire, en prenant cette même phrase, en le déformant complètement. Cela continue et le grand sacrificateur maintenant le met au pied du mur pour ainsi dire parce que si vous voyez le film dans votre tête, Jésus accusé par des choses ridicules, absolument ridicules et pas vraies, ne dit rien. Il a le droit, la possibilité, c'est normal que dans un procès, maintenant, il répond à chaque fois, mais il ne dit rien. Et cela met Caïphe en colère, et il crie sur Jésus, « Ne réponds-tu rien ?» C'est frustrant que Jésus ne dise rien. C'est le pire des scénarios pour Caïphe et pour le Sanhédrin. Parce qu'il n'arrive pas à le piéger dans un mot. Alors, il le met au pied du mur. C'est pas sur ça qu'il voulait l'avoir, parce que rappelez-vous que le Sanhédrin ne peut pas exécuter la peine de mort. L'Empire romain ne leur permet pas. Pour que Jésus soit exécuté, crucifié, il faut qu'on l'amène à notre tribunal, c'est-à-dire devant Ponce Pilate, le gouverneur. C'est lui seul qui a l'autorité. Mais Ponce Pilate, il va pas exécuter Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ prétend être le Messie. Il n'en a rien à faire. Donc, mais comme le Sanhédrin ne peut rien trouver de mauvais, d'illégal, d'injuste, d'immoral en Jésus, il va maintenant chercher le point sur lequel au moins le Sanhédrin peut le condamner. On verra comment on fera avec Pilate. Donc il lui dit, es-tu le Christ, le Fils de Dieu, béni. Nous ne comprenons pas ce que cette phrase voulait dire pour Caïphe. Parce que les Juifs à l'époque ne pensaient pas que le Messie allait être divin. Donc, quand Caïphe dit « Est-ce que tu es le Christ, le Fils de Dieu ?» ça ne veut pas dire qu'il est le Fils de Dieu dans notre sens de divin. Ça veut dire que tous les rois d'Israël, tous les rois, Salomon et d'autres, étaient appelés fils de Dieu. D'accord? C'est une habitude d'autres empires que, avec leur faux dieu, que le roi était considéré comme le fils adopté de Dieu. D'accord? Et donc, Caïphe dit, est-ce que tu es le Messie promis que nous appelons le fils de Dieu? Jésus dit quelque chose. Il brise le silence. S'il avait parlé contre les fausses accusations, ça aurait été pour quelle raison? Pour se défendre, se sauver. Donc, il se tait. Il ne veut pas se sauver. S'il s'était maintenant devant cette question, il peut se sauver peut-être. Mais s'il parle et confesse, sa crucifixion sera sûre. Et il parle, il faut qu'il témoigne. Et il ne faut pas que le Seigneur laisse aucun doute pour vous et moi aujourd'hui. Ça doit être clair au moment le plus critique qu'il est. Et il dit, je le suis. Ça aurait suffi. Mais il faut qu'il corrige l'idée du Messie dans la tête de Caïphe et de la Cour suprême. Donc il ajoute quelque chose pour montrer que fils de Dieu, le fils de Dieu que moi je suis, c'est le fils de Dieu divin. Je suis Dieu, le fils éternel. Donc il dit ceci, il dit « Je le suis ». Et vous verrez le fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. En d'autres termes, vous me condamnez aujourd'hui, mais vous allez voir que c'est moi qui suis le juge même de l'univers entier. Une fonction qui appartient seulement au Créateur. Le Sanhédrin, Caïphe d'abord, prononce le blasphème. Vous avez entendu le blasphème, verset 64. Le mot blasphème à l'époque est assez élastique, d'accord, et ça comprend toute atteinte portée à l'honneur de Dieu. Et donc, ce que Jésus dit est considéré comme un blasphème. Et il dit maintenant à la cour que vous ensemble, tous le condamnèrent comme passible de mort. Et maintenant, chers amis, le procès se change en émeute. Et si nous étions là, nous aurions vu ces hommes dignes, la Cour suprême, venir s'accourir sur Jésus, et ils commencent à cracher sur lui, et à le frapper. Les juges commencent à frapper le Christ dans le visage, l'un après l'autre, le frappant, le rouant de coups. C'est ça qui se passe dans le procès de la Cour suprême ce jour-là. Ensuite, ils le laissent avec les gardes, ils s'en vont, ces hommes, et à leur tour, les gardes le frappent, le tapent. Et le Christ, après cela, sans doute, a le visage... Vous ne voulez pas voir. Vous avez vu quelqu'un qui a été frappé par plusieurs dizaines de personnes et roué de coups? Est-ce qu'on pouvait encore voir même ses yeux? Est-ce qu'il avait des dents par terre? Certainement il saignait. Certainement c'était une scène terrible. Et le résultat de tout ce procès, c'est que le Sanhédrin condamne Jésus-Christ non pas pour une mauvaise action quelconque, qu'il n'arrive pas à trouver, mais pour le simple fait d'avoir dit qu'il est le Messie et le Fils de Dieu. Au moins, le procès a réussi sur un point, les choses sont claires. Maintenant, les leçons. Trois choses, tout simplement. D'abord, la souffrance. Deuxièmement, le silence. Et troisièmement, le témoignage. La souffrance de Jésus. Quand nous voyons ce qui se passe, nous nous demandons pourquoi est-ce qu'il a dû se passer comme ça? Pourquoi le Seigneur doit-il subir une telle injustice? Pourquoi Dieu n'a pas-t-il prévu tout simplement que les gens le saisissent dans leur colère et qu'il l'amène tout de suite à une croix et là il est crucifié? Pourquoi faut-il les procès? Il y en a trois cette nuit-là, trois procès qui se passent. Certains diraient quatre, mais au moins devant Caïphe, devant Pilate et devant Hérode, et deux fois devant Pilate. Il est amené du sud-ouest de la ville de Jérusalem, de cette palais de Caïphe, au nord-est probablement à la tour d'Antony, nommée après Marc Antony, qui était ami d'Hérode le Grand. Et là probablement était Pilate. Et puis il est amené chez Hérode qui est là juste pour le moment, temporairement. Et puis on l'amène chez Pilate et chaque fois il y a des procès complètement injustes, terribles, terribles ce qu'il subit. Pourquoi est-ce qu'il a dû subir tout cela? Parce que Dieu révèle, Dieu nous révèle des choses. Et qu'est-ce que vous, vous voyez dans tout cela? Nous voyons d'abord quelque chose sans doute au sujet du péché de l'homme. Est-ce que vous ne vous trouvez pas un peu étonné devant la conduite du Sanhédrin, de la Cour suprême? Et surtout quand vous considérez ceci, les apôtres vont dire plus tard que le Fils de Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme le Fils unique de Dieu. Et nous avons reçu grâce sur grâce. Quand eux, ils ont regardé ces trois ans de la vie publique de Jésus, ils ont dit, jamais un homme n'a été si bon. Bon, bon. Il est allé ça et là faisant du bien, nous dit Pierre dans une prédication après. Et il a guéri plein de gens, il a ressuscité des morts, il a relevé ceux qui étaient brisés. Et tout ce qu'il faisait était empreint de bonté, de bienveillance, de patience. Et puis, ayant fait que ça, il reçoit ce traitement tellement injuste. On veut mentir contre lui et le condamner et le tuer injustement. Cela nous montre quelque chose du mystère du péché. Chers amis, parfois, nous avons un mal dans le fait de penser que le péché, c'est simplement quelques actes isolés qu'on a fait parce que on a un peu perdu contrôle, c'est pas vraiment moi, mais j'étais un peu provoqué, n'est-ce pas? Mais la Bible veut nous montrer que le péché humain est quelque chose de beaucoup plus grave, qui est une sorte d'allergie anti-Dieu. On ne sait pas que c'est en nous. Moi, je ne hais pas Dieu, me dit un homme. Je ne crois pas en Dieu, mais je ne le déteste pas. Tant qu'il s'occupe du ciel et moi de la terre. N'est-ce pas? Mais dès que Dieu commence à s'imposer dans nos vies, non, non, non! C'est là que nous découvrons ce qui est en nous, n'est-ce pas? Et le Christ est venu trop proche. Dieu est venu trop proche en Jésus-Christ. Et là, le royaume des hommes était en danger, menacé. Tout ce que ces hommes voulaient avoir comme leur royaume, leur manière de voir, leur façon de diriger le pays. Là, moi je crois. Ça c'est le royaume de moi. Je ne veux pas savoir ce que Dieu dit. Mais non, moi je crois. Et donc, nous voulons établir, nous, nos règles, nos croyances, au lieu d'écouter et de se soumettre. Et tout cela, nous voyons maintenant dans ce déchaînement de la Cour suprême. Et puis, tout le peuple qui crie « Crucifiez-le !» Maintenant, vous ne voulez pas dire, chers amis, je pense. Mais ça, c'est eux. Ils sont bien pires que moi. On n'est pas comme ça, nous. Non, nous ne voulons pas dire ça. Nous voulons, si nous sommes bibliques, dire, voilà, si moi j'avais été là, j'aurais fait partie. Ça m'étonne que j'aurais fait partie, mais Dieu me révèle dans les Écritures que, en dehors de Christ, s'il ne travaille pas dans mon cœur, c'est à ça que je ressemble. Mais ce n'est pas vraiment pour ça que je vous raconte ceci. J'arrive maintenant à mon point sur cette leçon de la souffrance de Christ. Pourquoi est-ce qu'il doit subir tant d'injustice? Oui, ça nous révèle notre péché, mais surtout, c'est pour que Jésus soit obligé de faire face au péché humain dans sa pleine réalité avant de mourir pour les mêmes gens qui le traitaient ainsi. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Choristes. Ce formidable film, il y a quelques années, n'est-ce pas? Au sujet d'une école de garçons délinquants, gravement violents, méchants, incontrôlables. Et donc, il y a un homme qui cherche du boulot et il finit par trouver un boulot comme pion dans cette école... au fond de l'étang, on appelait ça. Et donc, il arrive le premier jour, sans savoir de quelle sorte d'école il s'agissait. Et c'est un des établissements le plus... qui puisse être à l'époque. Et donc, il est avec le monsieur qui est responsable de la maintenance des bâtiments, et donc, il lui montre un peu les lieux d'abord. Et à un moment donné, ce monsieur nouvellement employé, Clément Mathieu, lui dit ceci. Il a dit, en fait, il s'agit de quelle sorte de garçons qui viennent dans l'école. Et le monsieur le regarde, subitement un peu consterné, et il hésite. Et puis il lui dit juste cette question. Ah, on ne vous en a rien dit? Clément Mathieu est venu là parce qu'il ne savait pas à quoi ressemblaient ces garçons. Et le premier jour, on lui vole ses affaires, on l'insulte, il le traite horriblement, méchamment, c'est incroyable. Bon, comme il n'a pas d'autre boulot, il est obligé de continuer, il y a une belle histoire qui finit, n'est-ce pas? Mais Jésus n'est pas allé au fond de l'étang. Il est allé au fond de l'enfer. Et il n'est pas allé là parce que, à la croix, je veux dire, pour vous et pour moi, parce que, je ne savais pas pour qui j'allais faire ça. Si j'avais su que vous étiez tellement mauvais, tellement méchant, je serais jamais allé mourir pour vous. Non, une partie de cette scène, c'est pour que le Christ, en tant qu'homme, ait devant ses yeux le péché qui peut nous habiter. Heureusement, on en a épargné, Dieu travaille en nous, nous évite d'aller jusque-là. Mais c'est nous. Et le Christ voit et il sait de quelle sorte de garçon et de fille il s'agit, pour lequel il doit aller dans quelques heures à la croix, parce qu'il doit subir cela pendant des heures, juste avant d'y aller. Est-ce que vous avez jamais eu de la peine à croire que Dieu peut vous pardonner? Oh, mais je sais pas. Parfois le chrétien, après quelques années de vie chrétienne, il fait encore des choses mauvaises. Il dit, oh, mais si le Seigneur avait su que je ferais ça, que j'aurais été un chrétien si médiocre et si négligent, je sais pas s'il m'aurait sauvé. Enterrez ça aujourd'hui. Enterrez ça. Parce que le Christ est devant le péché humain dans toute sa splendeur. Et il dit dans quelques heures, depuis la croix, Père, pardonne-leur. Ces procès nous enseignent cela. Deuxièmement et plus courtement, le silence. Nous lisons dans le verset 60 que le souverain sacrificateur dit « Ne réponds-tu rien ?» Et Jésus reste en silence. Et quand il est devant Pilate, nous lisons ceci. Pilate l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien ? Vois tout ce dont il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Il n'a jamais vu un comportement, jamais dans sa vie de procureur, comme ça. De même, tellement accusé, tellement mal accusé sans doute, et qui ne se défend pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Isaïe avait dit, 7 siècles avant, ceci au sujet de Christ qui allait venir. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. C'est le Fils de Dieu. Muet devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Le silence de Jésus est un cri assourdissant dans la Cour suprême. Parce que quand il n'ouvre pas la bouche, quand il est comme un agneau, une brebis muette, tout est en train de dire dans cette Cour suprême des hommes qui connaissent Esaïe, « Vous avez devant vous le Messie, vous avez devant vous le Messie !» Personne n'agit comme ça. Et Jésus, de sa part, il est en train d'emmagasiner volontairement la honte. Une fois, jeune dans ma carrière de pasteur, j'ai vécu une division malheureuse dans une église au sujet d'un changement doctrinal. Les pasteurs et les anciens sont devenus calvinistes et à l'époque c'était le plus détestable des croyances, bien que cela a été la croyance de tous les protestants au début de la réforme, la croyance dans toutes les grandes confessions de la foi. Mais surtout les gens étaient vraiment enragés qu'on ne puisse pas croire au libre arbitre. Et donc, j'étais dans une église, j'étais le pasteur assistant dans une église de plus de 400 personnes. Et nous avons décidé, nous avons changé de croyance, nous allons démissionner pour ne pas perturber le statut, prendre une autre conviction. Et nous n'allons pas, comme les gens ne veulent pas ce que nous enseignons, nous allons paisiblement nous retirer. Il y a une assemblée générale avec 200-250 personnes présentes. Et dans cette assemblée générale, on a annoncé notre démission et puis on a donné la parole aux gens. Et il y a eu un déluge d'accusations, de fausses accusations incroyables. Moi-même qui enseignais l'école dimanche des ados, j'étais dans l'église depuis 7 mois. Une fille s'est levée, une adolescente, et elle a lu une page d'accusation contre moi, comment je dirigeais la classe des ados, et elle disait plein de choses qui étaient pertinemment fausses. J'étais là, et j'aurais pu tout simplement dire, messieurs, dames, cette fille, pendant les 7 mois, c'est-à-dire à peu près 30 dimanches que je suis votre pasteur, elle n'a été présente que 2 dimanches dans la classe. Mais j'ai rien dit. On m'a demandé, est-ce que vous avez quelque chose à dire, David, au sujet de ces accusations? J'ai dit un mot. Non. Mais je peux vous assurer que c'est dur. Parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes, jusqu'aujourd'hui, sans doute, qui pensent des choses assez horribles sur moi, que je n'ai jamais faites. Ça, c'est rien. C'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Mais la honte, il fallait ce jour pour notre Seigneur qu'il prenne toute la honte comme s'il était le plus grand pécheur du pays, le blasphémateur, l'homme mauvais, l'homme qui voulait détruire le temple. Et il prend tout sur lui afin de nous sauver. Pierre aussi est accusé, n'est-ce pas? Et que fait-il? Les accusations contre lui ne sont pas fausses, elles sont vraies. Tu étais avec lui. Et il ment, il jure, il exagère, il fait tout ce qu'il peut, il se démène pour que devant ces accusations, il puisse s'échapper. Parce qu'il pense à lui. Le Christ est silencieux pour une bonne raison. Il ne pense pas à lui, il pense à vous. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il ne dise rien et qu'il prenne la place faussement du coupable. La dernière chose que nous pouvons apprendre après la souffrance et le silence, c'est le témoignage. Et là, je voudrais juste vous rappeler que dans le reste du Nouveau Testament, et je me dépêche, et je ne vais pas dire grand-chose là-dessus, mais simplement que la Bible fait grand cas du fait que Jésus a porté un bon témoignage devant les autorités. Écoutez ce verset, vous allez voir ce que je veux dire. Paul dit à Timothée ceci. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement sans tâche, etc. Souvent dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, Jésus est appelé le témoin fidèle. Et on parle de ses procès, que là, il a témoigné vrai. Maintenant, simplement, c'est une chose de dire qu'on est « je suis prophète » ou « je suis Messie, je suis le Messie ». C'est une chose de dire une chose comme ça quand vous êtes en pleine sécurité, quelque part avec les gens qui sont crédibles, n'est-ce pas, qui croient à tout. C'en est une autre quand tu es devant la Cour suprême et tu sais que si tu donnes le vrai témoignage, si là tu confesses la vérité que tu es le Messie, c'est la crucifixion romaine. Dieu place pour vous son Fils dans la situation la plus critique, là où les paroles sont claires, explicites, et on a toutes les raisons de l'univers de dire la vérité et que la vérité. Et Jésus dit la vérité alors que cela lui coûte la vie. Le bon témoignage. Jésus dit très clairement, au prix de son sang, et sur cette confession, « Je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant, il y a le sang du calvaire. » Parce que c'est cette phrase qui lui a tout coûté. Est-ce que vous avez jamais douté? Est-ce que Jésus est vraiment le Christ? Est-ce que Dieu aurait pu vous donner un témoignage plus sûr dans un contexte où rien ne peut égarer? Nous pouvons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il nous montre par son silence, par son témoignage, par sa souffrance. Pour nous, tout est pour nous et tout est par amour. Nous allons chanter un chant qui parle de ce procès de Jésus, et qui nous dit que nous aussi, nous devons juger à notre façon prendre des décisions par rapport au Christ. C'est le 230 au tribunal. Jésus se tient. Au tribunal, Jésus se tient, méprisé seul et sans soutien. Pilate au peuple dit soudain, que dois-je faire à Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Tu diras plein des fois, que fera-t-il de moi? Comme Judas trahirez-vous celui qui vient mourir pour nous, ou le suivrez-vous jusqu'au bout? Que ferez-vous de Jésus? Que ferais-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein des fois, que feras-tu de moi? Comme Pilate indifférent, condamnerez-vous l'innocent? C'est vous qui jugez maintenant, que ferez-vous de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein des fois, que fera-t-il de moi? Jésus, je te donne mon cœur, toi seul es mon parfait sauveur. N'oublie sur mon bonheur, je t'appartiens, ô Jésus. Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein des fois, que feras-tu de moi? Je vais terminer dans la prière. J'ai été un peu long ce matin, donc je vais clôturer notre culte maintenant. Notre Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as subi. Tout ce qui était effroyable, terrible et injuste, qu'en tant que vraie âme, dans la faiblesse humaine, physique, émotionnelle, tu as subi de plein fouet. Nous sommes admirables devant ton amour parfait. Tu ne cherches rien pour toi. Alors que Pierre se sauve et nous serions sauvés nous-mêmes, tu ne penses qu'à nous sauver et tu restes muet devant l'injustice. Nous prions que nous puissions te ressembler plus, Seigneur, nous-mêmes, que tu nous apprennes à aimer comme toi et à être plein de reconnaissance pour ton amour. Nous te le prions en ton nom. Amen. N'oubliez pas vendredi, donc rendez-vous pour un peu avant 8h30 et priez pour ce moment dans la semaine, en dimanche.